France Culture.
Escalier 4. Ouais.
Merci. France Culture. Le book club.
On se déchausse ?
Grossière. Hein.
Moi, ça me pose aucun problème. J'ai des très belles chaussettes en plus aujourd'hui. T'as peut-être des moins belles chaussettes. T'hésites ?
Pas sûr.
Ah, ah, c'est pas mal quand même.
Vous voulez un verre d'eau, du thé ?
Moi, du thé, pourquoi pas, ouais.
Dans la bibliothèque de Françoise Vergès.
J'ai un thé vert Marco Polo.
Marco Polo ?
Oh, c'est un thé vert assez fruité.
Marie Richaud.
Moi, je veux ça.
Plusieurs choses frappent lorsqu'on entre chez Françoise Vergès et avant les livres, qui vous allez l'entendre sont là en quantité et absolument partout. D'abord, c'est la couleur qui saute aux yeux. Il y a des couleurs au mur, au sol, des couleurs sur les tissus. Et ça, c'est la deuxième chose qui frappe quand on entre chez elle, les tissus, en pile ou choisis soigneusement pour recouvrir un fauteuil, un canapé. Une attention à la matière dont on sent qu'elle raconte quelque chose de profond sur le monde, le travail et les êtres. Et enfin donc, les livres, partout, de bas en haut, beaucoup en anglais, classés par zone d'intérêt, dessinant peu à peu l'histoire de ses recherches successives. Françoise Vergès écrit des essais, elle enseigne, elle milite, elle s'est longuement et profondément intéressée par exemple à l'histoire de l'esclavage, à la pensée des coloniales, aux différents mouvements féministes. Programme de désordre absolu, un féminisme des coloniales, une théorie féministe de la violence sont les titres de livres récemment parus aux éditions de la Fabrique. Vous l'entendrez, ces lectures font aussi de la place à ce qu'on appelle le roman graphique, considérant qu'il y a là une forme efficace et récemment renouvelée de faire passer récits et connaissances. Place maintenant aux lectures de Françoise Vergès.
Est-ce qu'il y a un sens des visites de cette bibliothèque ?
Non, il n'y a pas de sens. Il y a des organisations par genre et par catégorie.
On fait un petit tour ?
D'accord.
Allez.
Donc à l'entrée, là, juste à droite, en haut, c'est tous les livres de mon oncle Jacques Vergès qui m'a donné, donc je les ai mis là.
Okay.
Voilà. Okay. Là-haut, il y a quelques romans, mais je ne vois plus ce que ça. Ça, c'est un peu des livres d'art. Là, c'est pas mal de livres sur les ouvriers, la littérature, on pourrait dire prolétaire si on veut, mais enfin, bon, c'est un mot qui n'est pas très...
Prolétaire, il y a plutôt produite par des ouvriers
oui,
ou sur
oui,
le mot écrite,
ouvrier non, écrite par oui, les... oui, c'est des témoignages.
Ok.
Puis là, c'est encore de l'art. Bon, là, c'est de l'art. Voilà, c'est... Là, c'est des livres d'art et puis de tissus, parce que je suis très... Oh, j'aime beaucoup
ce que
les tissus.
Franchement, c'est... Pour dire aux personnes qui nous écoutent, quand même, on entre dans un endroit où presque tissu et livre sont à égalité, non ?
Oui, oui.
C'est vraiment incroyable. Mais vous êtes érudite aussi sur les tissus ?
Je veux dire, oui, c'est un sujet d'étude pour vous. Oui, je fais pas mal. Oui, puis je fais de la couture. Alors, je m'intéresse aux tissus. Vous voyez, là, il y en a...
Il y a une bibliothèque de tissus, là.
Une bibliothèque de tissus, là, vous voyez, là, par exemple.
Ouais.
Oh,
ah oui,
là,
aussi.
Avec ses rangées en indigo, ouais. Et puis l'Afrique, l'Asie du Sud-Est... L'Inde, il y a soie, coton, ça dépend.
Et vous les avez pour les avoir ou vous les avez parce que vous avez l'intention de faire quelque chose avec ?
Je fais des choses au fur et à mesure, oui, je fais des choses au fur et à mesure. Bon, bah déjà, par exemple, j'ai recouvert tous mes...
Ouais.
Tout ça, c'est moi qui les ai fait.
Toutes les housses comment on appelle ça ?
Oui, puis là aussi.
De tapisser, quoi.
Oui, de tapisser. Voilà, là, ça, c'est l'océan Indien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'océan Indien à un moment donné. Donc, à un moment où très peu de gens en France ou en Europe s'intéressaient à l'océan Indien, parce que l'Atlantique est très forte ici, un paradigme est puissant. Et moi, bon, je viens de l'océan Indien, donc tout ça, c'était les livres, et surtout en anglais, parce qu'il y a en fait très peu de livres en français, ça a commencé il y a quelques années. Donc tout ça, c'est une bibliothèque en fait en anglais sur l'océan Indien, alors sur les voyages, les formations, les mondes de l'océan Indien, tout cela. Là, c'est encore de l'art.
Voilà. C'est un enjeu quand même quand on fait de la recherche et que la bibliographie, elle est peut-être moins fournie que ce qu'on aurait besoin. Quand vous commencez à travailler par exemple sur cette zone-là en vous disant, il y a peu de travail qui est encore fait, C'est un enjeu de constituer pour vous une bibliothèque au moment où vous commencez à travailler ?
Oui, oui, puis de toute façon, oui, puis j'étais passionnée, je suis toujours intéressée par l'océan Indien, mais j'étais passionnée par cette histoire parce que justement c'est très très différent de l'Atlantique, c'est moins déterminé par l'Europe, c'est moins déterminé par la découverte, entre guillemets, des Amériques. C'est un monde où il y a les échanges entre l'Afrique et l'Asie sont millénaires, donc ça rend les choses passionnantes. Puis c'est un monde, il y a le monde africain, il y a le monde musulman, il y a le monde ensuite hindou, puis chinois, tout ça. Enfin, je dirais, puis avec des échanges qui commencent très tôt, pendant les millénaires, bien avant que les Européens arrivent dans cette région. Donc ça donne aussi une autre image des formations.
Ouais.
Culturelle, politique, des circulations d'idées, des circulations de musique.
D'une sorte de carte, des équilibres un peu des mondes, quoi, non ?
Oui, oui, puis une cartographie totalement différente. Bon, moi, je viens de La Réunion, c'est un axe Afrique-Asie, donc on est très loin de la France. Évidemment, la France, ça compte puisqu'on a une colonie, mais elle est périphérique géographiquement, mais aussi...
Imaginairement.
Voilà. Et puis réellement, quoi, historiquement. Mais en fait, finalement, il y a... Je veux dire, il y avait des choses qui existaient avant et qui continuent à exister. Donc, ça m'a toujours intéressée. Voilà.
Dites-vous avec un air malin.
Là, ça, c'est, je crois, musée.
Autre grand sujet de préoccupation.
Et puis, alors là, tout ça, c'est justement, ça, c'est tous les tissus.
Ouais.
Tissus.
Ça arrive quand, ça, votre rapport au tissu ?
Je crois que j'y pensais il n'y a pas longtemps, je regardais, je crois que le premier. Grand tissu que j'ai acheté, je devais avoir 14 ans. J'ai acheté un sari de mariage que j'ai gardé.
En sachant ce que c'était ?
Oui, je savais ce que c'était. Oui, je ne sais pas pour me marier, mais c'est parce que je le trouvais très beau. Uh-huh. Et je l'ai gardé toujours, j'en ai rien fait parce que c'était trop précieux. Je n'osais pas le toucher.
Mais avec la conscience de ce que c'est dans la vie des sociétés.
J'aime le toucher. J'aime toucher les tissus, j'aime leur odeur. J'aime voir à quel point il y a une incroyable imagination, une incroyable attention des êtres humains, que ça a à voir avec la vêture, s'orner, se déguiser, tout ça. Je trouve ça magnifique.
Donc, on peut dire aussi aux personnes qui nous écoutent que donc on est rentré ici avec quasi égalité les livres et les tissus et les couleurs. C'est très important quand on rentre dans cet endroit-là que c'est un endroit où il y a vraiment des couleurs. On poursuit ?
Oui. Alors là, tout ça, c'est des revues, tout ça, c'est aussi des livres, c'est l'architecture, c'est encore les tissus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça, là ?
On peut dire aussi que tous ces endroits de bibliothèque que vous évoquez avec nous, Françoise Vergès, il y a des cartes postales, des objets, des coquillages, des petites statuettes. Là, devant moi, justement des ciseaux, j'imagine, de couturière.
Oui.
Il y a un tissu derrière nous qui dit plus de livres et moins d'armes, des cartes postales.
Oui, c'est assez... mais enfin, je sais où sont les choses. Quoi. Je viens...
Est-ce que ça reflète aussi une bibliothèque mentale, des intérêts, de la manière dont vous pensez, comment les choses elles sont aussi
Il y a un côté couche.
Ouais.
Un côté couche, je vois que, voilà, si je veux un peu me souvenir de à quoi je m'intéressais, je regarde mes bibliothèques, parce qu'il y a des choses que je consulte moins maintenant. J'ai beaucoup donné de livres. J'ai énormément donné de livres, parce qu'il y a des cartons entiers. Mais j'ai donné beaucoup de littérature, parce que je me dis, la littérature, je peux la retrouver. Sur les essais, souvent, il n'y en a plus, quoi. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne trouve plus ou pas dans l'édition que moi, j'avais acheté, que je veux garder, quoi. Donc là, c'est pour ça qu'il y a tant d'essais. Là, on est dans de la littérature, mais vous voyez encore, c'est beaucoup en anglais, quand même.
Pourquoi vous lisez tant en anglais ?
C'est une langue que j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup la littérature en anglais. C'est aussi parce que, à travers l'anglais, j'ai accès à des romans qui sont très tardivement traduit en français, plus tardivement.
Y compris, je veux dire, dans la production contemporaine, quoi.
Oui, y compris. Par exemple, je ne sais pas, moi, les premiers livres que j'ai lus, par exemple, de Native American, de romans, c'était en anglais. Ils ont été traduits, je ne sais pas, moi, je me rends compte qu'ils sont... Je ne sais pas, tout d'un coup, je vois que la traduction arrive, je me dis, mais j'ai lu ça il y a déjà 12 ans. Donc, il y a ça. Beaucoup de livres aussi d'Asie du Sud-Est, ne sont pas tout de suite traduits en français. Ils sont traduits très tardivement. Ou alors, ça tourne autour des mêmes auteurs et des mêmes autrices. Et là, je découvre des choses.
Et puis comment vous découvrez ? Parce que vous voyagez, parce que vous enseignez ailleurs.
Je lis aussi, je reçois, je lis des journaux de critiques
En anglais, je lis beaucoup London Review of Books, New York Review of Books et d'autres. Et puis aussi parce que quand je voyage, j'aime bien lire de la littérature à propos du pays que je vais, où je vais, ou pour travailler, ou pour voyager. Je me souviens par exemple, quand je suis allée au Sri Lanka, j'ai voulu absolument découvrir la littérature. Et je me suis, donc j'ai cherché, et j'ai lu, elle était surtout en anglais, elle n'était pas encore traduite, il y a un tout petit peu de choses traduites. Je me dis, partout, il y a de littérature. Partout, il n'y a pas de pays sans littérature. Et comme à travers l'anglais, je peux les lire, parce que je ne lis pas d'autres langues. Je lis le français, le créole, l'anglais, un peu l'espagnol. Mais bon, c'est surtout à travers l'anglais. Donc c'est pour ça qu'il y en a tellement. Là-haut, un peu d'Algérie, quart d'Algérie, un peu de livres de théorie politique. Je crois là-haut aussi, tous les livres de Marie Scondé, enfin voilà. Puis encore des livres sur l'art ou sur le tissu.
Vous avez des fidélités.
Oui, ça reste. Là, dans le couloir, ce sont... à droite, tous les livres sur l'île de la Réunion. Surtout pour des livres d'histoire, ça c'est toute une large collection. Et de ce côté, c'est de la psychanalyse.
Ils se font face.
dans la chambre, c'est de la théorie, là-haut, beaucoup, Marx, tout ça. Voilà. Tout ça, c'est de la théorie. Alors là, c'est le bureau. Alors là, c'est le bureau. Là, c'est esclavage. Là, on a... Je ne sais pas si c'est la théorie postcoloniale, comme on disait à un moment donné, tout cela. Ça, c'est l'histoire. Là, en bas, on a racisme, Afrique, de nouveau aussi de la critique postcoloniale. Là, c'est la collection de Minuit sur la guerre d'Algérie. La plupart des livres qui avaient été censurés, que j'ai pu reconstituer, que j'avais encore.
C'est ce que j'allais dire, ce sont des éditions qui sont très manifestement plus vieilles que les autres.
Oui, c'est des originaux.
Oui. Et que vous avez reconstitué parce que c'était dans la bibliothèque de vos parents.
Oui, dans mes parents, puis moi-même, j'en avais. Moi-même, j'en avais, donc quand je les ai retrouvés, je trouvais ça vraiment incroyable. J'avais complètement oublié que j'avais pratiquement toute une... partie de cette bibliothèque, de livres qui ont été censurés, qui n'ont pas pu paraître. Et donc, j'ai voulu reconstituer ça, parce que je trouve que c'est un moment important.
Ouais. Et c'est assez beau aussi, ce que ça nous dit presque matériellement de la place occupée par les éditions de Minuit à ce moment-là, dans ce conflit.
Oui, absolument. Là-haut, c'est déjà le féminisme.
Déjà, ça veut dire qu'il y a une forme de chronologie dans cette bibliothèque.
Oui. Par exemple, j'ai plein de livres de la maison d'édition des femmes, des très vieux qui sont dans leur édition originale. Ouais. Tout ça, c'est encore féministe, ça c'est féministe, ça c'est féministe, donc ça s'accumule, quoi. C'est en sur deux ou trois.
Ouais.
Ça, c'est des vieux livres sur la Réunion des années 60 que j'ai gardés.
Quand vous dites que vous avez gardé, c'est-à-dire de la bibliothèque parentale
Ou certains des miens. Voilà. Et puis là, c'est déjà aussi toute une... sur la linguistique, enfin tout ce qu'on a appelé postcolonial à un moment donné, tout ça, c'est un peu ce qu'on appelait postcolonial.
Et est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent et qui ne voient pas ce qu'on a appelé postcolonial, qu'est-ce que ça regroupe pour vous ?
Ça a été surtout toute cette approche théorique sur de critique de ce qui a été appelé la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire donc de ce que l'Occident avait écrit sur le reste du monde, et ou de relire à contre-courant ces livres-là pour montrer aussi qu'il y avait les autres mondes étaient là, mais un peu cachés. Donc il y a eu toute une série de relectures. Comment la colonie apparaît dans la littérature, soutient la littérature, mais aussi sur la question de la représentation, sur la question dans l'anthropologie, la manière de voir les autres cultures à partir d'une position très eurocentrique, quoi. Tout est comparé par rapport à l'Europe. Donc ça a été une très grosse production, ça continue, mais là, donc moi, ça c'était quand je faisais mes études à Berkeley. Tout ça. Sur l'impérialisme, ça, c'est une petite, un petit dessin, c'est des dessins. J'aime beaucoup les bandes dessinées de ce genre. C'est-à-dire, je lis beaucoup de ce qu'on appelle des livres graphiques, c'est ça qu'on dit. Mm-hmm.
Non. Des romans graphiques.
Des romans graphiques, j'en lis beaucoup. Et puis aussi, par exemple, des livres sur... ce qui m'intéresse, c'est, au lieu de lire à partir de ce qui se dit en Europe, c'est de lire, je sais pas moi, la Chine par des Chinois. La Chine du XIe siècle par des Chinois. Mmh. Là, c'est... qu'est-ce qu'on a là ? Je crois que c'est encore pas mal. C'est un peu mélangé, quoi. C'est un peu...
T'es quand même une bibliothèque de bibliophiles, un peu... Enfin, de grande lectrice, Françoise Vergès. Au-delà même, je veux dire, d'une bibliothèque de travail, de chercheuse et tout.
Oui,
ça veut dire qu'il y a quelque chose d'une très grande profondeur de champ de votre rapport à la lecture, non ?
Oui, oui, oui. J'aime lire.
Ouais. Mais c'est vrai.
J'aime lire. J'aime lire.
Dit ça par tous les pores, quoi, je trouve.
Je peux lire des choses qui n'ont rien à voir avec mon travail, si je puis dire. Je veux dire... strictement, j'ai rien à écrire là-dessus, ou j'ai rien à dire, j'ai pas une conférence à donner sur quoi que ce soit, mais je suis curieuse. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il raconte, mais qu'est-ce que m'en sait, etc. Et voilà, donc ça, oui. Il y a beaucoup de livres qui n'ont rien à voir avec, je sais pas, mais je sais même pas ce que sont vraiment, je pourrais décrire mes centres d'intérêt, mais bon, qui sont là, quoi. Qui sont là, par exemple, je sais pas...
Bah, tout ce qu'on a dit là, quand même, des zones de votre bibliothèque, ça reflète quand même des points forts de votre travail d'écriture et de pensée.
Oui, oui. Là, bon, par exemple, il y a tout Angela Davis, là, il y a Black Feminism, il y a... Effectivement, même si je ne lis pas ça pour l'utiliser, mais ça m'intéresse de voir comment des féministes noires posent les questions. Et puis, bon, quand il y a eu, toute cette recherche et toute cette début de publication de choses féministes, c'est-à-dire de voir, à partir d'une approche féministe, ce que c'était le travail, ce que c'est que la migration, tout ça. Donc là, il y en a plein de livres là-dessus.
Et, par exemple, enfant, vous avez fait le lien vite entre comprendre le monde, être curieuse du monde et lire.
Oui.
Une évidence, pour vous.
Oui, oui. Mais j'ai toujours lu beaucoup, beaucoup de littérature. J'en ai besoin, donc je lis très souvent. Je ne sais pas, j'ai deux romans et deux essais.
C'est votre mère qui tenait une librairie ?
Ma mère, quand elle est arrivée à La Réunion, elle a tenu une librairie, mais ça n'a pas marché. Il n'y avait pas du tout de clientèle pour des livres à l'époque, où ils étaient trop chers pour des gens, ou alors les autres qui savaient lire ne lisaient pas du tout. Il y avait très, très peu de livres chez mes amis. Je me souviens, quand j'allais au lycée, je ne trouvais pas un seul livre. Il n'y avait pas de livre. Donc, comme ça n'a pas marché, ma mère a rapporté le fonds à la maison. Donc, on a disposé d'une librairie, enfin d'une bibliothèque, pardon, extraordinaire. Et puis, on nous offrait des livres pour nos anniversaires, pour Noël, tout ça. Il y avait autre chose, puis des livres. Il y a toujours des livres.
Oui, donc vous baignez là-dedans quand même.
Oui, j'ai baigné. J'ai toujours vu mon père et ma mère avec un livre. Je veux dire, c'est très, très souvent, je les voyais lire. Je les voyais lire.
Culture.
Est-ce qu'on va vers vos textes, les textes que vous avez choisis pour nous ?
Dans la bibliothèque de Françoise Vergès, Marie Richaud.
Alors, On vous a demandé de choisir 5 livres, ce qui, au vu de la quantité de livres au milieu desquels vous vivez, Françoise Vergès, constitue une forme de casse-tête.
Ah, c'est un choix effrayant, absolument effrayant.
Ça vous a amusé quand même ou pas du tout?
Oh, ça m'a frustrée totalement. Ah ouais. Parce que je me disais, oh, mais oui, mais alors pourquoi pas celui-là? Mais pourquoi pas celui-là? Mais celui-là? Et puis je voulais pas tellement, je voulais pas faire les livres qui m'ont marqué, parce que tout d'un coup, au moment où je me suis posé la question, j'ai posé la question à des amis, absolument capables de nommer 5 livres qui les avaient marqués.
Et là, étaient capables ou pas capables?
Elle et ils étaient capables.
Ah.
Et alors moi, j'étais alors là, sans voix.
Ok.
Je me souvenais plus, tout d'un coup, c'est comme si je me souvenais plus de rien, même du dernier livre que j'avais lu. Mm-hmm. Je disais là, je trouvais pas.
Ouais.
Mais je pense que c'était parce que je sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, quand il a fallu le faire, je me suis mise devant ma bibliothèque et puis j'ai dit, ben voilà, celui-là. Voilà.
Ok. Et du coup, ça n'est pas 5 livres qui vous ont marqué, ce serait quoi alors? 5 livres quoi?
Ah, 5 livres que j'ai aimés, mais je peux pas dire parce qu'il y en a tellement qui m'ont marqué. Ouais. Je veux dire, tout ça m'a marqué, tout ça, tous ces livres.
Ouais.
Je sais pas si je regardais, si je vous disais celui-là, mais. J'ai adoré celui-là. Je sais pas, ça serait sans fin, quoi.
Ouais. Ok.
Je sais pas, par exemple, là, il y a des livres de Joseph Andras que j'ai beaucoup aimé, Kanaki et de nos frères blessés, vraiment. Là, il y a un livre de Pavese. J'ai beaucoup aimé Pavese à un moment donné. J'ai beaucoup lu Pavese. Enfin, je veux dire, c'est donc. Je sais pas, évidemment, Virginia Woolf. Enfin, Salman Rushdie. Enfin, voilà.
Ok, mais c'est pas eux qu'on a trouvé dans les 5.
Non.
Ce sont d'autres.
Ouais. Bon, voilà.
Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel vous souhaitez qu'on avance?
Aucun.
Ok.
Aucun.
Eh bien, prenons la pile comme elle vient alors dans ce cas-là.
Alors prenons la pile comme elle vient.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Alors là, c'est un livre de Diane Brand, qui est une poète et autrice africaine-américaine, enfin qui vient des Caraïbes et qui vit maintenant et enseigne au Canada. Et ça s'appelle « La cartographie de la porte du non-retour, carnet d'appartenance ». Et ça a été traduit de l'anglais par Mary Franklin. C'est un livre que j'avais lu en anglais, je connais aussi Diane, que je trouve une femme admirable quand elle s'exprime, quand elle fait des conférences, mais c'est une beauté extraordinaire. Elle a une capacité de faire une parole politique et poétique qui m'impressionne.
Ça, c'est quelque chose que vous cherchez comme... comme endroit de parole, Françoise Vergès, hein, ce croisement-là?
Oui, je cherche ce croisement-là, de ne pas être trop sage, de savoir parler de... Je ne sais pas, qu'on est quand même des êtres avec des émotions, des sentiments, et que c'est important de parler de ça, quoi, de faire part, même si je discute, je ne sais pas, de questions politiques, que ça a aussi à voir avec la détresse, la joie, la liesse... les pleurs, l'espoir, le désespoir, que c'est concret, quoi, que c'est tangible, que pour beaucoup d'êtres humains, ces idées ont une matérialité. Je veux dire, liberté, c'est une matérialité. Je veux dire, les gens descendent dans la rue, ils sont prêts à mourir pour ça. Donc, c'est quelque chose qui porte, quoi. C'est pas juste un mot, c'est quelque chose qui porte à l'intérieur de soi, quoi. Il y a quelque chose qui remue, qui fait qu'il faut bouger pour ça.
Encore une fois, je me dis, est-ce que vous savez, vous, dire comment ou quand ça s'est forgé, cette évidence qu'il y avait un croisement, un tissage, pour reprendre cette passion des tissus, entre les affects, quoi, pour reprendre, on va dire, ce serait une grande zone qui serait les affects, et... un rapport peut-être plus théorique ou intellectuel au monde, des capacités de lire des forces en présence, ce que vous faites, des capacités de penser. Ça a toujours été très lié, très ensemble.
Je ne sais pas si je peux dire... Je ne sais pas comment le dire, mais je sais que quand j'étais petite, je suivais mes parents dans les meetings politiques. Mm-hmm. Et il y avait quelque chose qui était là tellement fort de l'aspiration d'un peuple à quelque chose d'autre. Et que... Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va mettre son corps en jeu
et la voix, la parole,
pour quelque chose qui n'est pas tangible, quoi, qui n'a même pas à voir, par exemple, je sais pas, avec une augmentation de salaire ou quelque chose. C'est ce qui est aussi des choses très bien, mais pour quelque chose qui devrait advenir. Et donc ça m'a toujours
enfant. Enfin, vous suivez.
Enfin, oui.
Est-ce que vous pouvez restituer rapidement dans quel climat politique vous suiviez vos parents?
Bon, alors mes parents étaient des militants communistes, anticolonialistes, à l'île de la Réunion. Et quand je suis petite et puis aussi préadolescente et adolescente, ce sont des années d'intense répression, puisque c'est la guerre froide, donc l'anticommunisme forcené, mais aussi on est dans l'océan Indien avec tout ce qui bouge autour, les luttes au Mozambique, les luttes contre l'apartheid en Afrique du Sud, les luttes à Madagascar, à l'île Maurice. Donc moi je suis entourée de ça. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui arrivent à la maison. On discutait ça, j'entendais parler de ça. Donc, j'avais l'impression que le monde, il était au-delà de ce que j'apprenais à l'école, qui était, bon, l'école publique française, hein, où j'apprenais, bon, ce que tous les enfants de l'école publique française apprennent. Et donc, mais je savais que la France, moi, j'aimais déjà énormément, donc, la littérature, donc, je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup les cours de français, j'étais bonne en français. Je savais que la France, c'était pas que ça. C'était aussi ce que je voyais à l'extérieur, le racisme structurel, la violence. Et donc, il y avait une intensité très souvent. Il y avait comme une relation entre l'intensité parfois des pièces de théâtre qu'on devait déclamer, le Cid, à l'école, qui, moi, je me prenais complètement. Et en même temps, l'intensité que je sentais à l'extérieur, dans ces réunions politiques, puis de voir mes parents, de voir aussi, je suis allée voir mon père en prison. Enfin, je veux dire, il y avait aussi des choses très, très claires comme ça. Même quand j'étais en primaire, je sortais de l'école, j'allais rejoindre ma mère dans les bureaux du journal du Parti communiste qui s'appelait Témoignages. Donc, je restais là en attendant rentrer avec elle à la maison. Et il y avait des femmes qui pliaient le journal. Et il y a eu des moments où la police est arrivée pour saisir le journal. Donc, j'ai vu ça. J'ai assisté à ça. Donc, le sentiment d'un monde très, en même temps, intense, mais qui pouvait être à la fois plein de dureté et plein de joie, quoi. On était vraiment, j'avais l'impression d'une liberté totale et en même temps d'un...
Dans un monde qui était hyper punitif.
Oui, hyper punitif et brutal.
Donc ce détour que j'ai fait pour parler d'un positionnement, de croisement entre la...
Donc Diane, dans cette cartographie de la porte du non-retour, c'est cette porte qui est appelée ainsi par lesquelles les captifs et captives traversaient avant d'entrer dans les bateaux négriers. Et d'être déportée comme esclavisée. Mais elle part de ça, elle développe sur la question donc, de la diaspora, d'être aussi, d'être sans retour et sans retour possible. Et elle le voit pas simplement comme quelque chose qui va écraser, mais quelque chose qui ouvre aussi sur autre chose. Donc... ça m'a toujours intéressée.
On vous écoute.
Cette dislocation, cette sensation soudaine de ne pas savoir où on est, ni à partir de quel repère on doit s'orienter. Un point de certitude, un « où », à partir duquel on pourrait déterminer la destination suivante. Je me rappelle que je passais des heures dans l'océan quand j'étais petite, ou du moins ce qui pouvait sembler des heures à une enfant. Je passais des heures là dans l'eau et j'en sortais les chambres, lourdes et désorientées. Ces jours-là, quand je ne pouvais tout simplement pas quitter l'océan, que j'y retournais encore et encore, même si on m'appelait, je rêvais plus tard qu'on me faisait flotter et qu'on me berçait. Je rêvais de l'océan, à ma gorge qui tanguait et gonflait. J'aimais ces rêves. Couché dans mon sommeil, j'avais l'impression d'être encore dans la mer, la tête trempante dans l'eau, son goût vif et déroutant dans les narines, comme si je respirais de l'eau plutôt que de l'air. L'eau est la première chose que j'ai vue, imaginée. Un océan plein d'eau turquoise. Nous habitions dans une petite maison de bois sur la côte atlantique à Guayagaraye. Debout sur la plage de Gaïa, face au vaste océan, je pensais à des villes, à des endroits lointains dont j'avais entendu parler dans des livres. Avant de savoir lire, je pensais seulement à l'eau, aux poissons et aux pêcheurs que j'avais vus aller et venir en elle, au bout de bois, aux coquillages et aux bateaux qui soulignaient la ligne d'horizon, aux vaguelettes mousseuses qui arrivaient jusqu'à mes pieds, au fleuve qui débouchait, la gueule écumante plus haut sur la plage, aux nouveaux cadeaux de bouteilles vertes et bleues et d'objets polis par la mer, au point d'être indéfinissable. Là-bas, l'océan a toujours évoqué les départs et les arrivées pour moi. Les événements marquants, un poisson attrapé, un cadavre échoué, un signe de Dieu, un ciel trop rouge, un ciel trop bleu, l'arrivée de frégates, un bateau vide sur le rivage, des pêcheurs perdus ou enfouis
de l'eau boueuse et pleine d'algues, du sang dans la mer. J'ai beaucoup aimé ça parce que, en fait, moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup, beaucoup aller dans l'eau. J'aimais beaucoup l'océan. À La Réunion, c'est vraiment un océan. On ne voit pas de terre. Toute terre est très loin. Et j'aimais cet océan, j'aimais beaucoup. Quand j'allais nager, je pouvais rester des heures. Et ce que j'aimais, quand j'étais là, c'est, j'avais un masque, c'est de rester immobile jusqu'à ce que les poissons curieux viennent taper pour regarder qu'est-ce que c'est que cette grosse chose.
C'est quoi ce corps-là?
Ouais, ce corps. Et alors là, j'ai trouvé que j'avais vraiment gagné, là.
Vous aviez gagné quoi?
Ben, d'être comme les poissons. D'être aussi... que les poissons n'avaient plus peur.
Mais ce qui est aussi beau dans le passage que vous avez lu de Dion Brown, c'est la capacité de se souvenir de quoi est fait son monde à un moment donné. Ça, c'est une force aussi, parce que...
C'est une force. Elle a beaucoup de sensibilité. Elle a beaucoup de sensibilité. Là, elle parle de ville, où elle arrive, et dont elle part. Elle a une attention aux choses.
Mais ce que ça peut être aussi de début d'exercice de pensée. Moi, je me souviens très bien que pour un féminisme décolonial, ça m'avait marqué aussi parce que, clairement... Quand on pose la question de « Alors, qui a pris soin de ta maison aujourd'hui ? Qui a pris soin de tes enfants aujourd'hui ?» Ce sont des questions très pratiques, c'est des questions d'observation. C'est très tangible.
Ouais.
Et à partir de cet exercice de pensée-là, on peut déplier des forces en présence, un racisme structurel. Mais ça part d'une question qu'on peut poser à plusieurs personnes.
Oui, moi j'aime bien être là quand j'arrive et de regarder autour de moi et qu'est-ce que c'est et comment c'est fait. Mais j'arrive dans cette pièce, elle est comment? Est-ce qu'elle est accueillante ou pas? Est-ce que, je dirais, et puis effectivement, elle a été nettoyée par qui? Quelles sont les mains de ces femmes qui ont fait que cet endroit est propre et que je peux m'asseoir, que ce soit au théâtre, au cinéma, au restaurant?
Et elles ont pu prendre quoi comme train pour venir à l'heure où il fallait venir pour nettoyer cette pièce avant que le spectacle commence, etc.
Et alors, le fait, pour moi aussi, très clair, c'est qu'on s'attend toujours à ce que ça soit propre. Je veux dire, si c'est sale, on le remarque, et on ne remarque pas que c'est propre. Parce que c'est normal que ça soit propre. C'est quand c'est sale qu'on le remarque. Mais comment? Mais ce théâtre, ce cinéma, c'est totalement sale, c'est pas possible.
Deuxième texte, c'est Catherine Millot. D'ailleurs, je remarquais qu'il y avait plusieurs ouvrages de Catherine Millot dans votre bibliothèque.
Oui, alors c'est une psychanalyste dont j'aime pas mal les livres. Et là, ce livre, je l'ai choisi parce qu'en fait, c'est un livre qu'elle écrit après le Covid et elle a failli mourir. Elle a été vraiment en urgence et elle a été à l'hôpital, isolée, quoi. Et donc, quand j'avais lu ce livre, j'avais été impressionnée par ce que j'avais appelé sa sagesse face à la possibilité de mourir. Et je me suis dit, mais enfin... Ouh là là, et que pas du tout de manière style je suis une philosophe et voilà la mort, la vie, l'au-delà, je sais pas quoi, non. Vraiment là, le fait que voilà, peut-être demain je ne serai plus là. Et ça m'avait beaucoup impressionnée.
Parce que c'est pas quelque chose que vous partagez?
Parce que c'était très impressionnant.
C'était impressionnant, oui, c'est impressionnant. Moi, parce que je lis beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres sur la torture, sur la disparition pour mon travail, quoi. Beaucoup de témoignages aussi de personnes disparues au Chili ou en Argentine ou ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'avais travaillé à la Maison d'édition des femmes, j'étais allée au Chili sous la dictature de Pinochet recueillir des témoignages. Et là, la disparition, la torture, donc j'ai beaucoup lu à ce propos.
Puis écouté. La mort n'est pas étrangère à votre travail.
Ouais. Mais là, c'était pas une situation de politique ou de répression. C'était, voilà, la maladie peut vous emporter. J'étais impressionnée. Ça m'a vraiment impressionnée. Puis je trouve qu'elle écrit très bien.
Allez, on vous écoute. Un peu profond ruisseau.
Ah oui, un peu profond ruisseau.
Paru en 2021.
Jusqu'ici, j'avais été à l'abri. Ma vie, lorsque j'y pensais, m'apparaissait bizarrement comme quelque chose de rond. J'ai eu une vie confortable, me disais-je. S'associer à cette idée de confort, le souvenir des séjours dans les villes d'art, les bons hôtels, je m'étonnais de ce mot. Le confort n'avait pourtant jamais fait partie de mes valeurs, croyais-je. Il m'apparaissait que cela avait gouverné mes choix de vie beaucoup plus que je ne le pensais. Le rythme de vie, les lieux de vie, surtout le rythme que j'avais toujours défendu, envers et contre tout. Sur la balance, il y avait aujourd'hui, d'un côté, la vie ronde, la vie confortable et préservée dont je pouvais me dire satisfaite, le rond suggérait quelque chose de plein, et de l'autre, l'ouverture illimitée de cette exposition à la mort comme une sphère retournée. La balance était en équilibre, et j'étais paisible, pleinement en accord avec ma situation. En accord aussi avec ce qui avait aimanté ma vie et mon désir d'écrire, cet intérêt pour les mystiques qui ne s'était jamais démenti. Ce soir, je n'étais peut-être pas une lectrice trop indigne de Madame Guyon, d'Étier Lissoum, qui disait qu'en cas de naufrage, elle ne serait pas de ceux qui se battent pour s'emparer de l'unique épave. Hors même de ces situations dramatiques, la volonté de vivre, quand elle est placée au-dessus de tout, m'avait toujours paru manquer d'élégance, un peu obscène. L'idée de mourir seule, sans un proche pour me tenir la main, ne m'affectait pas. La mort est une affaire solitaire. Le prochain, c'est-à-dire quiconque, suffit à l'accompagner. Je songeais à mon père, sous oxygène comme moi aujourd'hui, avec les mêmes lunettes dans les narines que j'avais quitté à la clinique à 10h du soir et qui était mort à 2h du matin. L'infirmière m'avait demandé mon numéro de téléphone. J'avais cru que c'était pour m'appeler s'il allait plus mal, mais ce fut pour m'annoncer sa mort. Il lui avait dit, juste avant de mourir, qu'il avait eu une belle vie. Ça me... Je trouve ça très émouvant.
Qu'est-ce qui vous émeut tout particulièrement?
Peut-être que je pense à la mort de mes parents quand je lis ça.
Oui, comment ne pas, non?
Donc je pense à ça, oui. À tout ce que ça signifie, ouais. Tout ça, quoi.
À la mort plus qu'à la vie de vos parents? Parce que non, finalement, mais... ça se termine par l'idée que c'est un homme qui dit qu'il a eu une belle vie.
Oui. Cette question de belle vie. Cette question d'avoir eu une belle vie. C'est fort de pouvoir se dire, j'ai eu une belle vie.
Qui n'est pas tout à fait la même chose qu'en avoir une de bonne.
Non.
Qui est quelque chose qui circule aussi en ce moment. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne?
Oui, une belle vie. C'est-à-dire une vie, comme elle dit, ronde. Quelque chose, oui.
Et ça tient à quoi pour vous? C'est chacun qui peut avoir les bons critères de ce que c'est pour lui une belle vie?
Je pense. Mais je pense qu'on peut dire aussi peut-être de quelqu'un il a eu une belle vie ou elle a eu une belle vie.
Et c'est bon de se dire ça, non?
Oui, c'est bon de se dire ça. De penser, oui, que les personnes ont eu une belle vie.
Et vous avez pu penser ça de la vie de vos parents?
Oui, ils ont eu une belle vie. Ils se sont aimés jusqu'au...
Incroyable.
Ouais. Ce qui était important pour moi avec mes parents, c'est de comprendre qu'ils avaient eu une vie à eux, qui n'était pas que celle d'être mes parents. Ils avaient une vie à eux. Ils avaient eu... Ils s'étaient engagés, tout ça avant que j'existe. Donc évidemment, je pouvais peut-être croire le centre de leur intérêt, mais non. Il y avait d'autres choses. Mais ce que je trouve là, c'est que Catherine Millot, là, elle a, oui, quelque chose d'être. Et puis de capable de l'écrire.
C'est simple en plus comment elle l'écrit.
Oui. Et de l'écrire à propos d'elle. Elle n'écrit pas à propos de quelqu'un d'autre. Je suis très intéressée par des témoignages comme ça, des témoignages personnels de personnes qui savent dire quelque chose sans que ça soit trop. Précautionneux ou posé, sur une posture, d'arriver à être le plus proche d'une vérité. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours gagné.
Troisième choix ?
Un troisième choix. Alors en fait, je suis pas tellement quelqu'un qui saute sur les prix Nobel ou les prix de ceci et de cela, mais par curiosité, je suis tombée sur des livres d'Ann Kang, cette coréenne, et j'ai trouvé, mais vraiment, je me suis mise à... Du coup...
Elle a reçu le prix Nobel en 2024.
Oui, et j'ai tout lu. J'ai tout lu. Alors, il y a aussi quelque chose comme ça, parfois je commence à lire quelqu'un, et puis alors là, il faut que je lise tout.
Ouais.
Il faut absolument que je lise tout, parce qu'il y a quelque chose qui me prend dans l'écriture, alors je me mets à tout lire.
Ok.
Donc, c'est celui qui revient, c'est son livre. Et j'avais déjà lu des romans coréens, sur ces grands moments de répression en Corée du Sud, quand la junte militaire arrive et s'installe. J'ai eu un moment Corée du Sud.
Voilà. C'est pas tout le monde qui peut dire ça, mais ok.
Alors, je me suis mise à lire et voilà, il fallait que j'en dise beaucoup. Et puis, mon moment Corée du Sud était passé quand je me suis mise à lire Anne Kang et hop, c'est revenu. Mmh. Voilà.
Allez, on vous écoute.
Donc, c'est un extrait de Celui qui revient et c'est dans une traduction vers le français de Jaehong Eunjin et Jacques Patillon.
Certains soldats étaient particulièrement cruels. Ce que je n'arrivais pas à comprendre au début de mes recherches, c'est pourquoi ils avaient tué tant de gens qu'ils n'avaient pourtant pas l'intention d'arrêter. Une violence en plein jour dépourvue de sentiments de culpabilité et d'hésitation. Les supérieurs qui avaient encouragé et ordonné une telle cruauté. On dit que lors de la répression du soulèvement de Puma, à l'automne 1977, Cha Chi-chol, alors chef de service de sécurité du président Park Chung-hee, a déclaré « Ils ont tué plus de 2 millions de personnes au Cambodge, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire autant ». En mai 1980, lorsque les manifestations ont pris de l'ampleur, l'armée a utilisé des lance-flammes contre les citoyens. Des balles explosives, internationalement interdites pour des raisons humanitaires, ont été distribuées aux soldats. Chung Do-hwan, qui bénéficiait de la confiance de Park Chung-hee au moment qu'on l'appelait le fils adoptif de ce dernier, avait élaboré un plan qui consistait à envoyer des bombardiers sur la ville au cas où la préfecture ne serait pas tombée. Je l'ai vu dans une vidéo alors qu'il foulait le sol de cette ville, descendant d'un hélicoptère militaire, le matin du 21 mai, juste avant l'intensification de la répression. Le visage tranquille d'un jeune général, il s'éloigne de l'hélicoptère, puis serre énergiquement la main d'un officier qui l'accueille. C'est... pour moi qui suis intéressée par la question de la déshumanisation, de la manière dont les personnes sont déshumanisées. Et puis alors évidemment en ce moment, avec le génocide à Gaza, au Congo, au Soudan, je veux dire, cette question revient beaucoup. Cette question par exemple de cette indifférence, de cette absence de culpabilité, de cette absence d'hésitation.
Et de tuer sans nécessairement le lier à une arrestation, de tuer pour tuer.
Ce qu'elle dit, le visage tranquille d'un jeune général, ce visage tranquille des assassins, cette capacité de préserver, de se préserver de la responsabilité est toujours un peu surprenante parce que on voudrait que les gens portent quand même à un moment donné, on cherche à penser que quand même ils vont comprendre un peu ce qu'ils ont fait et puis finalement non. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce passage.
Mais sans même comprendre, ce que j'entends aussi dans le choix que vous faites, Françoise Vergès, c'est qu'ils ne sont pas atteints. Le visage tranquille, c'est un visage qui n'est pas atteint.
Oui, justement, c'est ce que je disais, c'est que parfois, on voudrait que ces gens-là, là, ces assassins, aient quand même un petit moment de culpabilité, un passage, quelque chose. Et c'est le fait qu'elle parle de cette tranquillité ou de cette indifférence des soldats qui ont carrément utilisé donc bombarde des lance-flammes est une réalité que je trouve importante à avoir en tête, quoi.
Et alors, on a quoi, quand on travaille sur ce sujet comme vous, Françoise Vergès, depuis des années, on a quoi comme outil théorique pour comprendre ça?
En fait, que de penser que l'État ou les serviteurs de l'État n'hésiteront pas à tuer.
Mais on a quoi comme outil pour comprendre qu'un humain est capable, visage tranquille, non seulement de tuer, mais d'ordonner des tueries?
Visage tranquille.
Parce que cette déshumanisation, le fait d'avoir séparé le monde entre humain et humain, on peut dire humain-humain, quoi, et humain-animal, ce qu'on a entendu aussi d'un ministre israélien, ce sont des animaux humains. Ou ce que, de toute façon, toute l'animalisation qu'il y avait pendant la colonisation, ou même encore aujourd'hui, la manière, quand on entend des gens racistes parler en France, c'est très rapidement, il y a l'idée du singe, d'une animalisation. Et donc, cette déshumanisation, elle est vraiment centrale et fondamentale, parce que...
Elle permet cette
expérience. Elle permet, quoi. Il y a une division, mais vraiment très, très claire pour... qui fait que, oui, des personnes peuvent tout à fait se dire « Mais en fait, c'est pas des humains comme moi. » Mais, je veux dire, c'est aussi pourquoi, par exemple, des jeunes soldats vont faire ça, Moi, je me suis aussi beaucoup intéressée, par exemple, aux jeunes appelés français qui allaient en Algérie, mais qu'est-ce qu'ils voyaient quand ils sont arrivés? Je sais pas, ils arrivaient de petits villages, de petites villes, c'était de jeunes gens gentils. Voilà, ils avaient l'idée de construire une famille, d'avoir une vie, quoi. Et puis, ils arrivaient comme ça, dans les endroits, et puis, ils brûlaient les mechtas. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, quoi? Comment ils ont vécu ça, quoi? Qu'est-ce qui leur a permis? Comment ils ont réussi à effacer, à aller dormir le soir? Alors, on dit, bon, ben, il y a l'alcool, beaucoup.
Il y a beaucoup qui ont pu beaucoup dormir après, quand même.
Oui, il y en a beaucoup. Puis, mais enfin, sur le moment, il y a aussi ne pas se distinguer des autres, parce que on lit dans des témoignages d'appelés en Algérie que celui qui ne voulait pas participer, ben, la fois d'après, tout d'un coup, il n'avait pas son arme, ou l'arme n'était pas chargée. Parce qu'il faut créer, justement, le groupe. Donc, tout ça m'intéresse, quoi. Qu'est-ce qui est possible? Comment l'indifférence est créée? Enfin, moi, j'ai vu ça quand j'étais petite. Hein. J'ai vu des gens se faire battre à mort pendant les trucs de répression. Donc, il y avait quelque chose où il y avait eux. Et le fait que la raison ne va pas l'emporter, c'est pas en disant, mais enfin, vous rendez compte de ce que vous faites. Non, parce que ça va au-delà de ça, quoi. Donc, dans ce livre, qui est surtout beaucoup donc, sur ce moment de terreur qui souffle, et cette jeune femme qui erre à la recherche d'un ami disparu, quoi. C'est écrit assez sobrement. C'est écrit sobrement. Et c'est donc très...
efficace.
Très efficace.
Votre quatrième choix. Alors, on va vers la musique.
Oui, un peu plus peut-être lié. Peut-être.
Je vous sers du thé.
Je vous en prie. Alors, c'est un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il y en avait un autre comme ça. Ça s'appelle « Aux nuits, aux mes yeux » de Lami Azadeh, Le Caire, Beyrouth, Damas, Jérusalem. C'est ces moments aussi, ces périodes de musique, de joie qui courent à travers plusieurs capitales. Les gens dansent, les gens sortent. Enfin, il y a les boîtes de nuit, il y a des grandes chanteuses, il y a des chanteurs. Tout ça, je trouve ça mais vraiment formidable.
Vous dansez, vous?
J'ai beaucoup dansé, je danse beaucoup. Je suis beaucoup.
Vous dansez, oui. Moins?
Oh, je sais pas, les gens dansent moins, quoi. Ou alors il faut aller en boîte.
Oui, mais vous danseriez volontiers si ça dansait plus, quoi.
Oui. Ouais. Ah oui, j'adore danser. J'adore danser, j'adore écouter, j'adore les moments comme ça de joie. Oui, oui, j'adore ça. Et de savoir que justement, les pouvoirs répressifs n'aiment pas la joie. Ils n'aiment pas quand on chante dans la rue, qu'on danse, c'est pas possible. Donc il y a une concentration restriction de ce qu'on peut faire dans l'espace public. Et donc, je trouve ça très beau. Je trouve ça. Et le fait aussi que beaucoup de révolutions sont accompagnées par de la musique.
C'est par des chants. Y compris dans les pires moments que vous avez étudiés, il y a des espèces de poches de chants, de danse.
Il y a des chants. Et les chants entraînent les foules. La voix humaine est très, 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 très puissante. Donc, ce livre, j'avais beaucoup aimé. Puis alors, c'est beaucoup autour d'Oum Kalsoum, que j'ai absolument adoré, que j'ai écouté en boucle quand j'étais plus jeune, que je continue à écouter. Hein. Mais alors, à l'époque, c'était en boucle. Tous mes pauvres voisins à Paris, je ne sais pas, ils n'avaient jamais entendu Oum Kalsoum. Je ne sais pas si c'était très intéressant. Donc là, ce livre, c'est sur toutes les grandes chanteuses et les grands chanteurs du monde arabe qui se produisent au Caire, à Beyrouth, à Damas et à Jérusalem à cette époque. Et donc là, c'est un livre illustré avec des illustrations, puis l'histoire de cette période. Et le passage, celui-là, s'appelle « Des berges du Nil à Oran, à Aden, à Bassora, à Beyrouth, Savoie, la voix des Arabes. » La musique vient du Caire et ça ne risque pas de changer. Sous l'impulsion de Nasser, la radio égyptienne vit une croissance spectaculaire. Il modernise Radio Smir de façon à ce qu'elle émette du Golfe à l'océan et crée la voix des Arabes qui diffuse aussi dans tout le monde arabe. On peut maintenant écouter Oum Kalsoum en direct le premier jeudi du mois, que l'on soit à Casablanca, à Alger, à Alep, à Mossoul, à Bagdad ou à Sanaa. Plus aucun dirigeant de cette partie du monde ne se risque à faire une déclaration ce jour-là. La voix des Arabes va être un outil primordial pour asseoir Nasser non seulement comme leader du monde arabe, mais comme leader de l'Est. Oum Kalsoum va largement y contribuer, elle qui le soutient passionnément. Entre deux, une compréhension, une admiration, une connivence mutuelle et naturelle vont se muer en une relation personnelle très forte. C'est sans doute leur amour pour l'Égypte qui les rapproche le plus. Leurs origines modestes, leur goût pour l'authenticité, leur souci des démunis, leur fierté et leur audace. Certains disent que l'excellente entente entre ces deux-là n'est motivée que par l'intérêt. La réalité est moins laide. Étant chacun idolâtré par des millions d'Arabes, pourquoi n'auraient-ils pas été séduits l'un par l'autre ? Nasser était aussi un grand admirateur de Mohamed Abdel Wahab. Encore une fois, les deux rivaux se côtoient. Ils aimeraient les voir un jour travailler ensemble, ces deux plus grands. Ce serait un fort symbole d'union pour tout le monde arabe. Pour Oum Kalsoum, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oum Kalsoum se complaît dans ce nouveau régime, rayonnante au centre de cet univers très masculin, célébré par ses jeunes militaires en pleine lumière. Elle était déjà sous l'ancien régime, c'est certain. Mais là, elle était à égalité avec ces hommes qui viennent comme elle de la terre, pas d'Oxford ou des collèges suisses. Sa statue, déjà immense, va prendre encore une autre dimension. Elle inaugure la Voix des Arabes à la demande de Nasser, comme elle avait inauguré Radio Smir, presque 20 ans plus tôt, à la demande du roi Fouad. Sa voix dans la nuit, des berges du Nil à Oran, à Aden, à Bassora, à Beyrouth. Sa voix, la voix de l'Égypte. Dans les cafés bondés, son chant berce les désillusions des fumeurs de narguilé, dans la longueur des volutes de fumée.
Vous écoutez encore beaucoup de musique ?
Oui, j'écoute beaucoup de musique. Mais alors, cette idée que justement, que quand il y avait le moment où chantait Oum Kalsoum, il n'y avait pas un dirigeant qui prenait la parole, je trouve ça très beau. Où la voix, le chant est, va être plus fort que le...
C'est presque utopiste, ouais.
Que la parole politique. Je trouve ça... Et puis, oui, puis ce côté où justement, et la radio, le rôle de la radio dans la circulation... mais pas seulement des idées, mais des chants. Des chants, la musique, comment la musique circule, quoi. Comment c'est partout, partout, une source de. Ou de mélancolie, ou de joie, ou de tristesse.
On a assez peu rencontré d'ailleurs la musique dans le tour rapide que vous avez fait tout à l'heure de votre bibliothèque.
Oui, j'avais. Ouais. J'avais beaucoup, beaucoup de 33 tours. À un moment donné, je les ai tous donnés. Maintenant, j'écoute la musique comme tout le monde.
Sur des plateformes.
Oui, sur des plateformes. C'est pas terrible, mais voilà.
Alors, votre dernier choix, Françoise Vergès.
Votre dernier choix, c'est de Safdar Ahmed, « Nous sommes encore en vie ». Note sur le système australien de détention des migrants. Alors, j'ai plusieurs livres sur ces questions de migrants, mais ils étaient en anglais, donc celui-là, au moins, il était en français. Il est traduit de l'anglais par Géraldine Chauniard. Et c'est un artiste, Safdar Ahmed est un artiste, et il est allé dans les centres de détention pour migrants. Et il a donc dessiné. Comme je suis très intéressée par les livres.
Les romans graphiques.
Les romans graphiques, oui.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que c'est un genre vraiment intéressant. Sans doute aussi parce que j'aime les images, peut-être. Mais. Je trouve que c'est une manière d'écrire qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien. C'est sur les migrants, notamment afghans, et puis ils racontent tout leur périple. Donc il y a plusieurs périples, il y a plusieurs histoires. Il y a certains qui viennent en Europe, qui essayent de traverser pour arriver en Angleterre. Puis il y en a d'autres qui sont en Australie, dans ces centres de détention. Et donc, c'est toutes ces histoires illustrées. Alors là, c'est... Ensuite, j'ai rencontré d'autres Afghans qui m'ont aidé à acheter un billet pour Paris. La police de l'immigration cible les trains directs pour repérer les réfugiés. Donc, on a pris une ligne régionale pour passer la frontière française. À chaque étape de mon parcours, je rencontrais des réfugiés. Dès qu'on se reconnaissait, on se mettait à parler. « Ça fait combien de temps que tu es parti ? Tu as été arrêté ? Combien de fois ?» Et là, on voit, ils tracent justement donc une carte de l'Europe où ils passent de Turin en France. Le pire, ça a été Paris. J'ai dormi deux nuits sous un pont près de la gare de l'Est. C'était plein de réfugiés là-bas. Heureusement, quelqu'un m'a donné sa tente après le départ de son ami. Il faisait tellement froid. Il y avait quelques journalistes qui réalisaient des reportages sur les réfugiés alors que nous parlions à peine. Ils sont gentils, j'ai rien contre eux. Ce qu'ils racontent ne sert pas à grand-chose. J'étais content de me tirer de là. J'avais choisi ça parce que bon, il y avait plein d'autres choses, parce que justement sur ce côté journaliste qui viennent un peu de regarder ces personnes, de faire avec un regard pour raconter une histoire, quoi. Pas pour ces jeunes hommes où il y a parfois des familles, des femmes, des enfants qui ont connu des choses absolument terribles, qui continuent à connaître des choses terribles, qui sont laissés dans des conditions totalement indignes, dans le froid, la pluie, sans manger, sans... C'est absolument effrayant. Pour moi, la condition des migrants en Europe est absolument effrayante. Mmh. C'est quelque chose qui m'enrage.
Et vous avez des outils pour faire face à cette rage ou vous restez avec cette rage sur les bras?
Non, je contribue à des actions. Notamment, par exemple, j'ai fait aussi des choses avec les mineurs isolés, bon, ceux qui avaient occupé la Guitte Lyrique. Mmh. Je suis allée parler avec eux, mais aussi à une association qui s'appelle Le Droit à l'école, où parfois on me sollicite pour venir parler, pour raconter, pour faire des cours d'histoire de manière bénévole. Et je leur montre des films, des petits films. Je leur ai monté un film de Madondo sur des immigrés dans les années 70 pour leur dire que leur grand-père avait ce qui aurait pu être leur grand-père, avait vécu des situations similaires et qu'il s'était battu. Donc c'était un petit film de Madondo, un très beau film, et qui s'appelle Nos voisins. Et puis, j'essaye de faire des choses comme ça, ce que je peux. Mais quand je lis, je sais pas, je trouve ça, le fait que l'Europe forteresse les laisse noyer, que l'Europe paye la Libye ou la Tunisie pour les réprimer, pour qu'ils vivent dans des conditions de brutalité absolument. Ça revient un petit peu à la conversation qu'on avait auparavant, c'est cet encouragement à la déshumanisation. À faire que vous avez même, je sais pas, en France, des gens qui vont avoir peur des migrants. Enfin, c'est des gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre. Ce que feraient des Français s'ils étaient dans cette situation? Ils se retrouveraient, ils fuiraient je ne sais pas où, j'en sais rien, mais et ils demanderaient à être acceptés. Parce que c'est par humanité, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, ça sera peut-être... un choix qui pourrait être intéressant. Bon.
Merci beaucoup Françoise Vergès d'avoir ouvert votre bibliothèque au Book Club.
Ben merci.
Je fais que quand je casse les stems. S'il y a trop de buzz, faut que je ferme les stores. C'est sport, c'est de merde, je crois que t'as capté stem.
Au revoir, merci beaucoup Françoise Vergès.
Au revoir,
merci.
Au revoir,
merci. Alors, est-ce que je tente un générique à quelqu'un qui va se casser la figure?
Non, ça
va. À la prise de son chez Françoise Vergès aujourd'hui. Et dans les escaliers, à ses risques et périls, c'est Corentin Bailly. À la réalisation, Cassandre Puel. Et au mixage de cet épisode, Grégory Wallon. Pour retrouver toutes les références des textes évoqués par Françoise Vergès, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. Un très grand merci à toute l'équipe de l'émission.
Je parle tout seul au bigo. Ce soir je parle à la lune. Je parle en émoticône. Je veux me perdre dans la hure. Je me retrouve au micro. Sur mes fers, ça, mais je dois bosser sur mes fers, ça, non. Demain je passe à la lune, je parle tout seul au bigot. Ce soir je parle à la lune, je parle en émoticône. Je me perds dans la hure, je me retrouve au micro. Elle met des larmes sur mes fers, ça, mais je dois bosser sur mes fers.